l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Eh bien, bonjour à tous. Nous revoilà dans ces charmants studios de FM+, qui nous accueillent toutes les semaines pour parler de la solidarité internationale. Donc aujourd'hui, je reçois une jeune femme au prénom charmant, puisque elle s'appelle Cerise, et Cerise Biandé pour ne pas la nommer, donc qui est originaire de Centrafrique, et voilà, que j'ai déjà reçue, mais je l'ai reçue plutôt pour, dans une autre émission pour évoquer son cursus personnel, son parcours personnel, qui est d'ailleurs assez émouvant et assez attendrissant, et puis bon, péchu quoi. Hein. Et là, Cerise, j'ai souhaité la recevoir, puisque elle poursuit sa présence en France, outre ses projets personnels, elle poursuit aussi des projets qui rentrent complètement dans le cadre de la solidarité internationale, mais elle va vous en parler elle-même. Alors bonjour Cerise, comment vas-tu depuis l'autre fois ?
Je vais bien, merci, et vous ?
D'accord, ça va. Alors est-ce que tu pourrais rapidement nous dresser un peu le portrait, d'où tu viens, etc. et comment aujourd'hui on se trouve ici ?
Je m'appelle Cerise Biandé, comme vous l'avez dit, j'ai 25 ans. Et je vis en France depuis maintenant 10 ans et demi, parce que j'étais arrivée en France à l'âge de 15 ans. En fait, je suis venue par le biais d'un regroupement familial, avec mon père et tout ça, avec ma mère et mes frères et sœurs. Et voilà.
D'accord. Et ensuite, donc, il s'est passé quoi pour, tu en es où là, de ton cursus personnel, professionnel, scolaire, enfin tout
Alors en ce moment, je suis plus je me tourne vers tout ce qui est reconversion professionnelle à l'heure actuelle.
Oui.
Parce qu'en fait, j'avais fait un diplôme dans l'animation, enfin deux du coup. J'ai fait un CPGEPS qui m'a permis de travailler en tant qu'animatrice un petit peu. Et jusque de 2023 à 2024, j'ai décidé de faire un BPGEPS pour être directrice d'accueil de loisirs ou de séjour de vacances ou pour être responsable des écoles primaires. Mais hélas, j'ai validé de manière partielle. Et en ce moment, il y a une réforme qui est en cours, qui va peut-être entrer en vigueur à partir de 2026, qui va potentiellement modifier le diplôme. Donc, ce qui ferait que je ne sais pas, c'est est-ce que je pourrais repasser mon diplôme ou non. Donc, en ce moment, je suis en train de chercher de l'emploi.
Voilà, donc, on croise les doigts et pour l'emploi et pour la possibilité de reprendre ce que tu souhaites faire aussi. Tu nous tiendras au courant, de toute façon, tiendra informé. Voilà, et donc, lorsque nous avions parlé de la dernière fois de ton pays, de Centrafrique, que tu as quitté, tu étais jeune.
Oui, j'avais 15 ans quand j'étais partie de là.
Tu avais 15 ans, tu étais en pleine crise d'adolescence. Enfin, en pleine adolescence. Je ne sais pas, mais adolescence en tout cas. Et donc, tu es arrivée ici. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à... Est-ce que tu as gardé des contacts avec la réalité là-bas ? Comment tu te renseignes ? Comment les nouvelles t'arrivent ? Comment tu as une idée de l'ambiance là-bas dans le pays ?
J'ai de la famille qui est encore là-bas. Oui. Parce qu'après, il faut savoir que en Afrique, la famille, c'est pas que la petite famille, papa, maman et les enfants, c'est plutôt famille élargie.
C'est la grande famille.
C'est la grande famille, exactement. Et j'ai des cousins, des tantes avec qui on parle souvent via WhatsApp, où on reste en contact et tout. Et il y a ma mère et ma grande sœur, en fait, qui sont restées là-bas encore. Donc, au travers d'elle, je prends des nouvelles très souvent. Et voilà.
Donc, le pays est présent et vivant grâce à la technologie. Quelquefois, on dit que c'est trop, mais là, c'est vraiment... et WhatsApp particulièrement, enfin, voilà. C'est
heureusement, vraiment... d'ailleurs, hein, parce qu'il faut acheter tout le temps des unités pour appeler. Ça coûte quelque chose même. Donc,
Moi, j'ai vu évoluer ça, puisque l'Afrique, là, je la connais depuis bientôt 30 ans. Et c'est vrai qu'au début, il fallait acheter des cartes. Bon, après, puis avec le téléphone, comme tu dis, il faut acheter aussi des cartes, il faut recharger. Et c'est très cher.
C'est ça.
Et c'est vrai que WhatsApp, ça a tout révolutionné.
Messenger
et tout ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ce qui fait que tu peux te tenir au courant un peu de tout ce qui se passe et tu peux être tout à fait à la question.
C'est ça.
Voilà. Et donc, là, j'ai parlé tout à l'heure de solidarité internationale. Et donc, ça consiste en toi, de ta part. C'est quoi ? Ça a été quoi ton chemin vers cette démarche de solidarité ?
En fait, j'étais jeune en fait quand j'ai découvert cette appétence en fait pour cette cause que je porte aujourd'hui. C'est-à-dire en fait que j'étais tombée sur une vidéo comme ça sur les réseaux sociaux et où j'ai vu un enfant qui était là mais qui semblait sans défense et que comme si cet enfant n'existait pas dans la rue. Parce que ce que je porte aujourd'hui c'est autour des enfants de la rue. Et donc j'ai vu cette vidéo et comme ça m'a ramené aussi en arrière parce qu'il y avait une émission que j'écoutais quand j'étais jeune à la radio et des enfants de la rue en fait à qui on posait des questions du type comment ils se sont retrouvés dans la rue etc. qui racontaient leurs histoires et ça m'a fait un titre parce que justement il faut savoir que dans notre société africaine on ne parle pas trop de tout ce qui est santé mentale, si vous voulez. Mmh. Et ces enfants, très souvent, certes, il y a des ONG, il y a des associations qui existent, mais on vient plus pour plus se nourrir, vêtir. Après tout, le reste, on ne s'en occupe pas. Et je dirais même qu'il y a très peu d'associations ou de structures qui s'occupent de cette partie. Parce que tout simplement, en fait, dans notre société, après, j'aimerais dire que les gens ne sont pas assez sensibilisés à tout ce qui est santé mentale. Parce que lorsqu'on parle de fragilité mentale ou d'aller voir un psychologue, les gens pensent qu'on est fou, ça parle... En fait, ce n'est pas la psychologie, on parle plutôt de psychiatrie. Donc forcément, on ne s'en soucie pas, sachant que c'est des personnes qui vivent dans la rue. Même pour un adulte, même quand je vois ici en France, pour un adulte qui est capable de se défendre, ça fait mal au cœur. Mais à plus forte raison, un enfant qui est dans la rue, qui est en proie à plein de choses. Et donc ça me fait quelque chose. Et du coup, j'aimerais apporter mon soutien à ces enfants-là.
Oui, donc ce que tu es en train de me dire, ça me touche d'autant plus que moi, je suis... et psychologue, et que au tout début de mes voyages au Burkina Faso, je me suis occupée dans un dispensaire dédié à ça, aux enfants de la rue. Et effectivement, tu es tout à fait à la question. Alors, deux choses m'ont frappé dans ce que tu as dit, c'est-à-dire c'est que tu es très jeune, tu as été interpellée par cette cause-là, alors que tu étais en famille, etc. Voilà, que tu n'étais pas quand même à la marge de quoi que ce soit, déjà. Et puis là, alors ensuite, l'analyse que tu fais, effectivement, du soutien psychologique, moi j'ai en tête... Alors moi, les enfants de la rue, quand j'y retourne, ils me reconnaissent, parce qu'il y en a beaucoup après qui ont quand même réussi à se faire une vie à peu près correcte, et malgré la pauvreté ambiante, mais quand ils me voient, c'est vraiment, pour eux, c'est quand même quelque chose de très fort. Et il y en a un que j'avais essayé particulièrement, parce que j'avais justement repéré que lui était très très perturbé au-delà de plus que les autres, quoi. Et lui, je sais pas, j'ai plus de nouvelles maintenant, mais même devenu adulte et tout, on s'était vu beaucoup, on avait beaucoup parlé, mais il avait beaucoup de mal à se sortir de sa pathologie mentale, quoi. Et c'était un... Alors, il y a eu une étude aussi, je te le disais, qui a été faite, qui a été menée, plusieurs études au Sénégal. Parce que c'est souvent les enfants, quand les familles sont très pauvres, on les confie à des maîtres coraniques, hein, sous prétexte de religion. Et or, les maîtres coraniques, souvent, sont très maltraitants et envoient les enfants mendier. Et souvent, ils sont à la limite de mourir de faim, quoi. Donc, voilà, il y a une lutte qui est un peu faite dans ces pays-là. Il y avait aussi des panneaux publicitaires, par exemple, à Bobo, la ville où j'interviens. Et vraiment, c'était... Donc, ça me touche d'autant plus que tu es été sensibilisée à cette cause-là et que ça te soit revenu au moment où tu es quand même une jeune adulte et où on a aussi peut-être d'autres projets en tête. Et donc tu as donné ça a donné quelle forme donc cette préoccupation que tu as eue? Tu as commencé à songer à poser quelque chose de concret quand?
Alors là en ce moment en fait j'ai déjà créé l'association qui s'appelle Brave.
Ah, c'est adorable.
Qui signifie bâtir, rêver, aimer, vivre, exister. Parce que
répète-nous-le.
Bâtir, rêver, aimer, vivre et exister.
Voilà.
En fait, ce sont des droits que j'aimerais adresser à ces enfants pour leur dire que vous avez le droit parce que c'est pas facile en fait de lutter contre les préjugés de toute une société qui se dresse contre des personnes qui sont vulnérables comme ça. Parce que très souvent, comme ces enfants ils sont dans la rue, ils sont livrés à eux-mêmes parce que disons qu'ils s'éduquent tout seuls. Donc, quelquefois, il y en a qui se retrouvent à être dans la drogue, qui fument, qui sniffent de l'alcool tout simplement. Et par rapport à ça, en fait, on est aussi dans une société qui est fermée encore à l'idée que on ne réussit que par les études, pas par autre chose. Il faut faire de longues études pour réussir. Et comme ces enfants, malheureusement, n'ont pas eu ce privilège d'aller à l'école, d'aller loin dans les études, et qu'ils se retrouvent malheureusement dans la rue et qu'ils fument, donc forcément, la société a mis un point sur eux en disant que bah, toi, tu ne deviendras jamais rien. Toi, tu ne deviendras jamais personne. Et comme chez nous aussi, il y a cette... j'ai envie de dire, ce n'est pas une loi, mais il y a comme ce principe qui est encore là, en fait, dès qu'on attrape un voleur. Si tu as la malchance de tomber sur un quartier qui n'est pas très, disons, sensible, mais en fait, on te tue. Si on t'attrape sur les faits, on te tue directement et tout. Tu te fais lapider. Et ces enfants, en fait, on leur dit, bah, tu mourras comme ça, on te tuera comme ça, on t'attrapera alors que tu serais en train de voler. Et ce qui est triste, c'est que ces enfants n'ont pas choisi. Parce que nous sommes aussi sur un continent où on est en proie à tout ce qui est coup d'État. Parce que ces enfants, ils sont dans la rue parce qu'il y a eu des coups d'État, ils ont perdu leurs parents. Il y a eu des séparations parce que les parents refont leur vie aussi derrière, comme dans mon cas à moi. Mais j'ai été assez chanceuse de m'en être sortie parce que je suis tombée sur des parents quand même qui, franchement, ça va. Mais après, pour d'autres jeunes, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'en plus, il faut savoir qu'aussi, dans notre société, on a ce droit de comment dirais-je, lorsque j'ai par exemple un enfant et que ma sœur décide d'adopter mon enfant, je n'ai pas le droit de le refuser. Et des enfants se retrouvent des fois dans des familles, chez leur tante, chez leur oncle, et quelquefois, ils sont proches aussi à la maltraitance.
Tout à fait. Moi, je sais que j'ai connu pas mal de gens qui ont vécu ça, qui sont devenus adultes et qui m'en ont parlé. Et c'est vrai que c'est assez terrible quand une tante ou un oncle vous a pris. Alors, j'en connais une aussi. Bon, elle a été très, très mal, mais elle s'en est bien sortie. J'en suis très heureuse. C'est un peu ma filleule de cœur. Elle, c'était le décès de sa maman, le décès prématuré de sa maman, sous les coups du papa, d'ailleurs. Et donc, qui avait été remise à son oncle, l'aîné des oncles. Et elle a été maltraitée, et traitée comme une moins que rien, comme une domestique pendant des années.
C'est ça.
Très, très mal. Donc, c'est un récit vraiment qui me touche. Et je vois que c'est un petit peu partout dans tous les... Et justement, ce qui caractérise aussi ton pays, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure de coup d'État. Tu peux nous en dire deux mots sur le Centrafrique, justement?
Alors, c'est un pays qui n'est pas très stable, en fait, et c'est comme le Congo. Et justement, très bientôt, je pense que ça fait partie des projets sur lesquels on est en train de travailler, faire une projection sur un film qui s'appelle Hôtel Rwanda, qui remonte un petit peu, mais qui parle des génocides. Il faut que les gens soient sensibilisés à ça, parce que très souvent, lorsqu'on entend parler de guerre, on ne s'en rend pas compte forcément, on voit juste des petites images comme entre aux infos, mais la profondeur de ce que les gens vivent, mais les gens ne savent pas. Par exemple, moi je sais que de 2013 jusqu'à 2012, je pense, jusqu'en 2014 où je suis partie du pays, mais j'ai vécu ça. Il y a eu des coups d'État et en plus c'est un pays où, de mon enfance jusqu'à mon adolescence où je suis partie du pays, on ne se sent pas très en sécurité tout le temps parce qu'on a toujours des échos, des petits bruits de couloir qui nous disent que oui, peut-être qu'il y a un potentiel coup d'État qui est en train d'arriver, peut-être qu'il y a ça qui est en train d'arriver, et on voit que les gens vivent dans la peur. Il y a quelques jours, il y a un événement qui m'avait particulièrement marqué, je me rappelle, avant l'année qui a, en 2013, avant notre départ, c'était en plein réveillon de Noël. Là où les gens étaient censés se préparer pour les fêtes, etc. Mais c'était funeste, justement, parce que il y a eu des coups de feu. Il y a eu un quartier qui a été attaqué, qui est un quartier qui n'était pas loin de chez moi. Et il y avait eu des coups de feu. Donc, il y a eu une attaque, en fait, dans ce quartier, en fait. Et j'ai vu, en fait, là où de chez moi, en fait, on voyait des personnes qui fuyaient ce quartier, qui venaient et passaient devant chez nous. Pour y aller, on voyait des femmes, des enfants qui passaient. Il y avait des personnes qui étaient à moitié nues parce qu'ils étaient pris au dépourvu. Les gens étaient traumatisés. Et en fait, ce qui m'a aussi marqué, c'est le fait qu'on normalise la mort, en fait. Parce qu'il y a des moments où, lorsqu'on avait des coups de feu, des coups de grenade, en fait, à environ un kilomètre, on est comme... « Oh, ben, c'est pas encore chez nous, donc ça va. » Et on se baladait comme ça, la vie continue, on allait au marché, on vivait normalement comme ça, en fait. Et chaque jour, on se réveille, mais on ne sait pas si la journée va très bien se terminer pour nous ou non. On ne sait pas si ça va être notre tour de mourir ou non. Par exemple, c'est un cas typique, c'est-à-dire que mon frère, un jour, il était assis à la maison. Et donc, il y a eu des échanges de tirs dans un quartier. Et à un moment donné, en fait, il était assis tranquillement. Et ce qui s'est passé, c'est que... Il a juste eu un moustique qui l'a piqué, en fait, aux jambes. Et là, il s'abaisse pour juste frapper ce moustique. Et il y a une balle qui est rentrée juste là où il y avait sa tête.
Oh là là.
Juste là. En fait, c'était une balle perdue. Et là, il a pris cette balle, il en a fait un collier. Il a dit, en fait, ça aurait pu me coûter la vie. Donc, il en a fait un collier. C'est pour vous dire que tous les jours, on est rythmé par ça. Et là, à tel point qu'on est même plus choqué. Parce qu'à ce moment-là, on comptait des morts par centaines par jour. Et à un moment donné, on s'était retrouvés dans un endroit où on s'était réfugiés. Et juste à côté, il y avait un hôpital. Mmh. Mais on voyait des les voitures de la Croix-Rouge qui passaient, qui étaient remplies de cadavres, qui étaient emballés dans des sacs blancs. Mmh. On n'avait plus l'impression que c'était des humains. Mmh. C'est horrible, la mort. Mmh. Et il faudrait qu'on sensibilise les gens sur ça et que les gens sachent ce qui se passe.
Oui, mais ce serait bien de participer, puisque tu cherches du travail, oui. De proposer des ateliers aux jeunes et tout, parce que voilà, parce que c'est vrai que chez nous, c'est très très comment dire, très aseptisé, hein, c'est vraiment. Mm. Alors que là, vous êtes vraiment en permanence exposé. Et chapeau, chapeau la sérénité que vous pouvez avoir. Moi, je suis toujours admirative de la capacité que vous avez à rebondir, à revenir dans la vie. À être souriant, à profiter de la fête, etc., quand on vit des choses comme ça. Alors, c'est vrai que le Centrafrique, on n'en parle pas beaucoup, d'ailleurs, c'est pas en tout cas en particulier ici, en France, hein, et que en même temps, c'est vrai que quand on en parle, c'est régulièrement, c'est par rapport à ce que tu dis, à des coups d'État, à des massacres, à des tueries, etc., etc., quoi. Donc ça, il faut s'en remettre aussi un jour, mais bon, comme tu dis, on n'a pas le choix, et il faut apprendre à vivre avec. Et en même temps, ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu te révoltais en disant ouais, on finit par penser que c'est banal. Effectivement, c'est souvent la solution que trouve la plupart des gens, hein, pour avancer. Et puis après, il y a des gens un peu comme toi, un peu plus hypersensibles, qui sont un petit peu plus sur le créneau et qui n'arrivent pas quand même à tout annuler et qui restent quand même dans cette conscience-là, quoi. Hein. Oui. Voilà. Alors, Cerise, avant qu'on aborde justement un peu plus précisément comment tu as structuré un peu les choses dans ton action ici, avec ce que tu nous as dit, puis tu nous en diras sûrement d'autres, on va écouter de la musique. Et alors, tu nous annonces pourquoi tu as choisi cette musique et le titre. Allez.
Cette musique, c'est l'artiste nigériane. Oui. En featuring avec le groupe Sautisol, qui est kényan. En fait, c'est une déclaration d'amour à l'Afrique, tout simplement.
Une déclaration, une de plus. Il y en a, mais c'est bien, il n'y en a jamais assez. À tout à l'heure. Ouais.
Yeah.
voici de retour dans le studio après ce beau, très beau morceau qui, d'après mon invité Cerise, parce qu'on n'a pas trop compris les paroles, est un hommage à l'Afrique. Bon, et donc on a bien reçu ça. Hein. Et donc nous voilà de retour, Cerise. Et on était en train d'échanger un peu autour de cette histoire de résilience dans ce pays, entre autres des enfants. Tu peux en redire un mot là-dessus, justement, sur le fait que voilà, les gens se réparent un peu, tout seuls.
Les gens se réparent tout seuls, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Mmh. Surtout ceux qui n'ont pas les moyens, peut-être, de se réfugier autre part que dans le pays, en fait. Bien sûr qu'on perd des proches, bien sûr qu'on perd des gens et tout. C'est sûr que ça laissera un vide, ça laissera une tristesse, mais il faut avancer. Mmh. Pas d'autre choix, en fait. Mmh. Parce que on vit. C'est une chance, déjà, le fait que... En fait, c'est limite une victoire quand on est encore en vie dans ces situations. Parce que ça... En fait, on ne peut pas prévoir. Par exemple, c'est dans le cas de mon frère, je dirais en fait que... on était en sécurité nulle part. Parce que je sais que nous, on habitait dans un quartier quand même où ce n'était pas trop perturbé. Certes, il y avait des échanges de tirs qui touchaient tout le pays, mais ça allait quand même. Mais mon frère, il était à la maison un jour. Et il aurait pu se prendre une balle dans la tête et c'était fini. Et... Parce que, on vit, au début, on a peur, au début, on est déboussolé, mais puisque ça devient le quotidien, on s'y fait. Mm-hmm. On s'y fait, la vie continue, la vie doit continuer, parce que c'est comme ça, malheureusement, et on n'a pas d'autre choix, quoi.
Oui, en même temps, je dois dire, alors je ne sais pas si c'est le terroir, parce que je me dis qu'après tout, on est peut-être comme la vigne, hein, ou je ne sais pas, ou d'autres, ou tout ce qui est végétal, c'est-à-dire qu'en fait, le terroir, il agit sur nous aussi. Et c'est vrai qu'il y a une capacité de rebondir et d'être dans la vie de la part des Africains qui m'a toujours épatée, quoi, parce que voilà, c'est comme si on se lève ce matin, on n'est pas malade, on a de quoi manger à peu près aujourd'hui, on n'a pas de gros ennuis, on n'a pas perdu quelqu'un, donc on a un grand sourire et on est souriant vis-à-vis de tout le monde. Et puis on voit bien, comme tu le disais, que même quand il y a des tristesses comme ça, des choses quand même très douloureuses et très destructrices, malgré tout, cet élan vers la vie, il y est toujours.
C'est sûr.
Donc voilà, c'est sûr. Et je pense qu'effectivement, on revient à notre sujet principal, je pense qu'effectivement, c'est ce qui encourage justement pour faire ce que tu es en train de faire, créer cette association à l'encontre des enfants de la rue qui malheureusement, avec tous les événements qui se passent, sont toujours trop nombreux. Puisque voilà, vu quand il y a des événements, quand il y a du bazar comme ça, forcément les enfants sont largués et sont souvent abandonnés aussi.
C'est ça.
Voilà. Et donc toi, ton association, elle date de quand ?
De 2024, mais on a commencé à mener des actions plus concrètes depuis 2025. Parce qu'entre-temps, il faut savoir que j'étais en formation aussi. On l'a ouvert avec l'association, je l'ai ouverte avec mon cousin. Mais lui, en ce moment, il est en master, donc forcément, voilà. En ce moment, je prends plus les rênes et lui, il essaye de m'aider quand il le peut. Donc voilà.
D'accord. Et donc quand tu dis on commence à mener des actions, c'est quel genre d'action que vous êtes en train de mener ?
Alors là, on a plus des projets parce qu'en fait, on a participé à des événements. Par exemple, je sais que il y avait un événement qui a eu lieu en décembre. On y a participé, on a fait des petites ventes.
C'était quel événement ?
C'était chanter Noël. C'était organisé par Mosaïque et du coup, on a été conviés. Donc, on a fait des petites ventes. La dernière fois, j'ai aussi participé à l'événement qui a été organisé par l'association des étudiants maroïdes de Montpellier. On essaie d'être plus présent aussi, de créer des liens avec d'autres associations aussi pour essayer de se porter ensemble. Donc, voilà.
D'accord. Et ces événements, le but de participer à ces événements, c'est quoi ?
C'est créer du lien aussi avec d'autres associations qui, comme nous, en fait, comme on dit souvent, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
Oui.
Certes, on ne vient pas de même pays, même continent, etc. Mais ce qui nous porte, ce sont les causes qu'on a dans le cœur. Et c'est ce qui est important, en fait, c'est ce qu'on cherche justement à créer du lien avec. Parce qu'on ne va pas rester dans cette sorte de case, en fait, en se disant « Ah, je suis centrafricain, je ne m'associe pas avec d'autres personnes. » C'est centrafricain et pas autre. Non. Parce que il peut y avoir d'autres causes aussi qui nous touchent en parallèle. Parce que, en fait, moi, on s'est plutôt dirigé dans tout ce qui est enfant de la rue, parce que c'est ce qu'on maîtrise. Et que moi, j'ai travailler en tant qu'animatrice. Mmh. J'ai un petit peu fait de la psychologie sur de l'enfant. Et donc, moi, j'ai eu des petites compétences, j'ai eu des petites connaissances, en fait, que je pourrais apporter. Mmh. À l'inverse, si j'aurais fait, par exemple, si je serais intervenue sur le cas des femmes battues, peut-être que je n'ai pas les compétences pour, parce que je n'ai pas une visibilité dessus. Mais ça n'empêche pas que je puisse aussi agir, participer aussi sur d'autres associations qui portent ces causes-là.
Oui, puis en sachant que les femmes battues, il y a des enfants aussi, des enfants en otage de tout ça aussi.
C'est ça, exactement.
Qui sont sûrement fragilisés.
C'est ça.
Donc il y a souvent aussi affaire par rapport aux femmes.
C'est ça.
Donc, bon, et là, il y a des occasions qui vous sont données un petit peu de gagner un peu d'argent, pour parler concrètement. Parce que c'est aussi un peu le nerf de la guerre quand on veut, veut aider.
Ah, ça, c'est sûr. Et surtout que ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Là, on a des projets qu'on est en train de mettre en place, parce qu'il faut savoir aussi pour réserver les salles et tout ça, il y a des délais qui sont là, 2-3 mois d'attente, etc. Donc, je suis en train de voir, on est en train de travailler sur des projets, prochainement randonnée, qu'on est en train de voir, je suis en train de voir avec le prestataire qui a une connaissance. Mmh. Donc, il faut voir avec les autorisations qu'on pourra avoir et tout ça pour essayer d'organiser ça. Et à côté, peut-être organiser aussi un petit déjeuner partagé aussi solidaire, pour essayer de rentabiliser aussi d'alimenter tout simplement les comptes, parce qu'on a besoin de fonds pour fonctionner.
Oui, c'est sûr.
Aussi, c'est ça.
D'accord.
Donc, comme on est dans nos débuts, c'est pas évident, quoi.
Et là, donc, sur place, là-bas, vous envisageriez comment, qui pourrait intervenir auprès des enfants, là-bas?
Alors, pour l'instant, il faudrait que je m'y rende personnellement.
Oui, ça serait pas mal.
Oui, ce serait pas mal. Il faut que je m'y rende personnellement pour essayer de créer des contacts, d'avoir des autorisations, parce que mine de rien, c'est un pays. Et il faut savoir où sont les limites, parce que je suis partie la dernière fois que j'étais là-bas, j'avais 15 ans. Donc, il faudrait que je rentre, justement, pour essayer de voir ce qu'on peut faire, les limites. Et ce qu'on ne peut pas faire, parce que la dernière fois, j'ai mon cousin qui me disait que oui, on ne peut pas trop s'approcher des enfants, etc. et tout. Mais bon, après, j'aimerais voir ça de mes propres yeux. Et aussi, pourquoi pas avoir des ressources pour justement, en fait, montrer la réalité. C'est-à-dire passer par des petits documentaires, des petits films qui pourraient résumer tout ça. Parce que c'est vrai que lorsqu'on en parle comme ça, de vive voix, forcément, peut-être quelqu'un qui n'a pas encore vu ou qui n'a pas encore vécu a du mal à se projeter. Alors que si on a une image, parce que l'humain marche beaucoup avec tout ce qui est image et tout ça. Donc, s'il y a une image, s'il y a du concret, ben, en fait, peut-être que les gens, ils verront ils verraient peut-être ce que ça voudrait dire, en fait. Et j'aimerais bien me rendre au pays très bientôt pour...
On souhaite que tu puisses le faire, en tout cas.
Merci beaucoup.
Et donc, justement, j'étais en train de penser, approcher les enfants. Alors bon, approcher les enfants, c'est vrai que, pour la connaissance que je peux avoir, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de scandales aussi, hein, autour de ça. L'appropriation des enfants, ou comment on approche les enfants, pour de nombreuses raisons. Et en même temps, je suis en train de me dire que, tout comme ici, ça peut se faire dans les milieux de solidarité, distribuer une soupe, par exemple, ça peut être aussi une façon d'approcher les enfants.
Ah, oui.
Et effectivement, qu'ils viennent pour ça,
clairement,
officiellement pour ça, mais qui en même temps puissent, après, s'ouvrir un peu, nouer un contact, trouver une référence, revenir, ce va-et-vient, ce tissage un peu de lien peut être très, très intéressant.
C'est là où, justement, en fait, mes compétences d'animation vont rentrer en compte.
Voilà, exactement. Et là,
Oui, voilà, parce qu'on ne peut pas... En fait, quelqu'un qui n'a pas confiance ne s'ouvrira pas facilement. Et en plus, justement, moi, mon but de me rendre justement là-bas, c'est de créer du lien. J'ai pas envie de faire un projet, je me dis, ah tiens, ils ont besoin de ça, 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 et tiens, on va faire ça comme ça. Non, c'est des personnes, en fait, j'aimerais bien que ce projet soit aussi le leur, en fait, qu'ils participent mais vivement à ça, qu'il y ait de l'échange, qu'il y ait surtout une relation de confiance, qui soit instaurée, qui soit là, on va discuter, c'est des humains comme moi, certainement, je pense que parmi ces jeunes, il y en a qui auront certainement le même âge que moi, et ceux-là, ils seront des référents, ils seront là et on essaiera de travailler main dans la main. C'est un projet que je ne compte pas faire sans eux, c'est avec eux.
Oui,
surtout.
Et c'est vrai que la nourriture, c'est pour ça que ça vient naturellement, c'est le béaba, déjà c'est la base,
c'est
déjà permettre au moins la survie ou la vie, et puis qu'après effectivement, comme tu dis, essayer de voir, d'approcher, il y a de quoi faire, enfin ça c'est vrai
ça,
il y a de quoi faire. Et puis comme tu dis, ce qui est intéressant aussi, c'est connaître, c'est savoir, ça c'est une éthique, en tout cas je pense, quand on fait comme ça, quand on est dans la solidarité, c'est pas de, comme tu dis, de décider comme ça, de dire on va faire ça, mais de voir un petit peu dans le contexte, en parlant avec les gens et en regardant
aussi.
Comme comme tu dis, tu parles des images, effectivement, une image, comme disent les Chinois, ça vaut mille mots, hein, donc voilà, c'est et pouvoir plus structurer le projet, ce que vous pouvez proposer, c'est la rencontre entre ce que soi on peut proposer et ce dont ils ont besoin là-bas, et à un moment faire un croisement entre ces deux choses-là, quoi.
C'est sûr.
Voilà.
C'est sûr.
Et donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Alors, l'association, donc, elle existe depuis 2024.
C'est ça.
Et alors, elle se compose de qui et qui ?
Alors, pour l'instant, on est deux, comme je vous le disais.
Vous êtes deux. Vous êtes deux, oui ?
Oui, mon cousin et moi. Donc là, en ce moment, je suis la présidente et secrétaire, et lui, c'est le trésorier. Donc après, on recherche aussi des bénévoles. Mais j'ai quelques personnes qui m'aident de temps en temps, en fait, en tant que bénévole et... Voilà.
D'accord. Bon, donc c'est pour l'instant c'est petit, mais voilà.
C'est ça.
Mais
petit,
en même
petit.
Temps, c'est. Mais en même temps, voilà, c'est ça peut être actif et c'est vrai qu'on n'a pas besoin. Quand on est trop nombreux, des fois dans une association, c'est un peu plus compliqué. L'important, c'est d'avoir un objectif, un même objectif, d'être vraiment dans le partenariat et dans l'aide et dans le soutien mutuel, etc.
Exactement.
Voilà. Et donc, et ton cousin, il retournerait aussi au pays un petit peu?
Oui, là il est en train de faire ses études en architecture et il aimerait bien aller construire son entreprise là-bas.
Ah ouais, ce serait bien.
Oui, ce serait... là il est en train de passer son master, après peut-être qu'il ira plus loin.
L'Afrique a besoin d'architectes parce qu'il faut savoir quand même que les cases maintenant, à part en brousse, il y a quand même beaucoup de villes qui ont besoin aussi d'immeubles.
Surtout chez nous, c'est en train de se développer, et sachant qu'on a 623 000 km². Mais je dirais qu'on n'a même pas 50% du territoire qui est exploité.
Il
y a du travail encore.
Il y a de la place et il y a du travail. Et alors là-bas, sur place, comment vous viseriez les choses ? Vous auriez des correspondants là-bas ? Vous connaissez déjà du monde ? Vous en rencontrerez ? Comment tu vois les choses ?
J'en créerai surtout. Parce qu'après, il faut savoir que ce genre de projet, il faut avoir des personnes de confiance.
Voilà, c'est ça.
Il faut avoir
c'est le sens de ma question.
Ah oui, il faut avoir des personnes de confiance, et d'où l'importance de parler face à face, parce que c'est facile lorsqu'on parle à distance et de se faire duper. Donc le mieux, c'est d'échanger avec les personnes et voir qui est fiable, et surtout voir qui est-ce qui a ce projet aussi à cœur. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui peuvent avoir ce projet à cœur, par exemple des jeunes de mon âge. La plupart du temps, on se met des freins, on se dit « Ah, mais je suis jeune, ça a l'air costaud, je ne pourrais pas assumer ça, j'ai ma vie à vivre aussi. » Et le fait peut-être que de voir un jeune ou une jeune comme moi qui arrive et tout, pour se motiver ensemble, la personne va se dire « Ah tiens, j'avais ça aussi en tête, mais comme je ne savais pas par où commencer, en fait... voilà. Donc, entre jeunes, des fois, on peut se motiver, parce que quelquefois, on se met des freins, parce qu'on se dit on a un jeune âge aussi. Et oui, le mieux, c'est d'aller sur place et de voir qui.
Et puis, comme tu disais quand même que tu as de la famille et tout, tu auras la possibilité d'avoir des contacts aussi.
C'est ça.
Qui te permettront éventuellement de faire une évaluation, en tout cas, des personnes et de leur motivation, comme tu le dis si bien.
Et voir aussi la disponibilité des gens.
Et c'est vrai que c'est très important, parce que tout ça, c'est un peu bête à dire, mais franchement, ça tient vraiment à la lucidité de la personne qui veut créer ça, quoi.
C'est ça. Hein, c'est ça.
Voilà. Bon, on va souhaiter donc bonne chance à cette association, brave.
Merci.
Et alors, est-ce que tu peux nous donner les adresses, les...
Oui, pour nous contacter, vous avez la page Facebook. Depuis le temps, on a beaucoup évolué. On a la page Facebook et Instagram.
Instagram, d'accord. Facebook et Instagram
qui sont Brave 34000.
Ensuite, Brave 34000, retenez bien ça. Brave 34000.
Vous pouvez aussi nous envoyer des petits mails, en fait, si vous avez besoin d'échanger, tout simplement.
Et la boîte mail,
c'est Brave 34000090@gmail.com.
D'accord.
Vous pouvez nous joindre là-dessus, ou sinon aller sur notre site internet aussi, qui est sur Hello Asso.
Oui,
et
d'accord.
Vous pouvez avoir tous les détails de ce projet qu'on porte.
Donc le site internet de Brave, voilà, Hello Asso aussi.
Et aussi par la même occasion, on est en pleine campagne, en fait, de récolte de fonds. Donc sur Hello Asso aussi, vous pouvez nous trouver si vous avez à cœur de faire un don selon votre bon vouloir aussi.
Voilà, et si la cause des enfants de la rue vous importe et vous est importante et vous tient à cœur, vous pouvez faire un don donc sur Hello Asso.
Exactement.
Et Brave.
Hein,
Brave,
Brave. Brave tout simplement.
Brave tout simplement.
Ouais.
Ben écoute, merci beaucoup de cette présentation. On souhaite longue vie, comme on dit au Burkina. à Brave, entre autres. Merci. Et puis à sa créatrice, à ses créateurs. Et puis une belle réussite aussi. Et de toute façon, sûrement qu'on on refera une émission, on refera un point d'ici quelques temps.
Il n'y a pas de souci.
Soit pour un appel de fonds lors d'une manifestation, un truc comme ça. Tu n'hésites pas.
Il n'y a pas de souci. Ah,
voilà. Et voilà, moi je voudrais, avant de vous laisser, vous annoncer une manifestation qui a lieu ce soir sur le massacre de Tiaroy, 1er décembre 1944. C'est l'histoire d'un mensonge d'État. Donc c'est un livre qui est écrit par Armelle Mabon, qui est donc chercheuse universitaire et qui a fait un gros travail là-dessus. C'est un mensonge effectivement d'État qui a vu le massacrer des tirailleurs sénégalais qui avaient servi la France pendant la guerre et qui voilà qui ont osé à un moment demander leur dû comme tous les autres. Voilà, et donc c'est ce soir de 18h à 20h, salle de Carousel, ici là où nous sommes ici, à 9 cours Gambetta. Voilà, ou 4 rue Saint-Barthélemy. Voilà, merci beaucoup à la technique et à bientôt.